Radio Okapi. Parité et famille.
Rien n'est plus tendre, plus chaleureux, plus traditionnel qu'un repas de famille.
Cette introduction veut aussi dire la vie n'est pas seulement faite de charme, de chaleur et de bien-être, mais aussi de chagrin et de larmes. Pourtant, heureux ou triste, il faut s'alimenter. Un bon repas revigore. Bienvenue à tous à notre émission Parité et Famille, qui s'intéresse ce jour à ces paroles de Lori Colvin, une écrivaine américaine. Dans cette émission, nous parlons donc de la valeur sociale et de l'importance du repas en famille. Nous sommes dans ce studio avec professeur Alexandre Nawej. Bonjour professeur.
Bonjour maman.
Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire à l'université de Lubumbashi et vous allez nous parler de la belle époque du repas en famille dans notre pays en RDC. Bienvenue dans Parité et Famille, votre magazine qui touche aux questions liées au genre et à la famille. Pour beaucoup aujourd'hui, le repas en famille est une coutume d'un autre âge. Dans bien de foyers, manger ensemble est l'exception plutôt que la règle. Ces personnes interrogées ici à Lubumbashi renseignent qu'actuellement le délestage a gagné même le repas en famille. Suivez.
Oui, comme chez moi, souvent c'est samedi et dimanche. Ce sont les deux jours où que je me concentre pour partager les repas avec ma famille. Sans mentir, les restes des jours, je suis trop surchargé. Je pars au travail et quand je rentre à midi, 13h, c'est pour peut-être manger ou pas et rentrer encore au travail. Et la journée pour moi se clôture à partir de 20h, 19h30 où les enfants ne sont pas encore dans l'appétit, quoi.
Oui, par exemple, le dimanche, les jours fériés, nous mangeons ensemble. Moi, je préfère manger avec les enfants pour que j'aie de l'appétit.
On les fait, mais c'est pas très régulier. C'est juste le week-end, samedi et dimanche. C'est là où nous avons presque un même horaire, où après l'église, tous nous nous rencontrons à la maison. Et dans ce sens-là, on peut manger ensemble. Mais à ce qui concerne le reste des jours, chacun est dans ses affaires. Il y a certaines personnes qui rentrent à la maison à 18h, il y a d'autres qui rentrent à 14h, il y a d'autres qui rentrent à 20h. Le temps vraiment de manger ensemble, essayez pas.
Impossible, depuis plus de presque 18 ans, impossible, parce que nous mangeons par délestage, nous mangeons à tour de rôle. Si on a un petit rien, aujourd'hui on peut dire ce sont les enfants qui mangent et nous les adultes demain. Ou bien alors, même dans les enfants là, ce sont les filles qui mangent aujourd'hui, les garçons peuvent manger demain et nous les parents après demain, mais pourvu qu'on ait quelque chose. Donc c'est impossible de parler du repas partagé.
Mais quand même tous les jours
partagé.
On mange, monsieur Tivoadi.
Non, on ne mange pas tous les jours, madame, parce qu'on mange par délestage. Regardez la semaine. Aujourd'hui, nous avons du courant. Demain, nous n'en avons pas. Ça peut faire même toute une semaine. Donc, nous sommes ici comme la semaine, nous les parents.
Si l'on note l'irrégularité ou le délestage du repas familial dans ces témoignages, chez Gaël Mwamba, fils cadet dans une famille de 11 enfants, le repas familial fut un championnat.
Je vais essayer un peu de rentrer un peu en arrière. Quand on était encore nombreux, à l'époque de la boule nationale, on mangeait généralement avec mon frère. S'il n'est pas là, c'était l'obligation de l'attendre, ou si moi je ne suis pas là, vice versa. À un certain moment, il y avait des cousins par-ci par-là qui venaient, et lorsqu'il faut partager, il faut être assez costaud pour maintenant savoir comment négocier les championnats. Au cas contraire, tu es abattu. Alors comme j'étais le plus petit, il fallait parfois développer les mécanismes d'autodéfense. Donc j'ai aussi relevé mon niveau.
Au vu de ces témoignages, le repas de la mi-journée, comme du soir, a manifestement perdu du terrain. Cela prouve clairement que les liens sociaux ont très rapidement évolué, expliquent les sociologues. Mais quels sont les facteurs qui ont contribué à ce phénomène? Jean Andou nous en dit long.
Tout d'abord, le coût élevé de la vie qui a conduit Marie et femmes à travailler davantage. Les parents, seuls dont la situation financière est généralement plus précaire, voient leur temps encore plus limité. Ensuite, le rythme effréné de la vie moderne favorise le prêt-à-manger et les repas pris à la hâte. Tant les adultes que les enfants multiplient les engagements. Ajoutons que des pères préfèrent rentrer à la maison une fois que les tout-petits sont endormis afin d'éviter leur crise de colère à table. D'autres parents, qui reviennent à temps, décident de faire manger leurs enfants en premier, puis de les coucher pour dîner calmement en couple. De telles situations amènent les membres d'une famille à manger séparément. De petits mots sur les réfrigérateurs remplacent les conversations de repas. Chacun arrive à la maison, réchauffe un plat cuisiné et s'installe devant la télévision, l'ordinateur ou la console des jeux.
Merci Jean Landou. On marque une petite pause.
Radio Capit donne la parole aux enfants, sans exclure les adultes. Tous les vendredis à partir de 14h05, rediffusion dimanche à 12h30 et 19h35. Les enfants et les adultes débattent sur un sujet qui les concerne.
Nous sommes de retour dans ce studio. Parité et famille parle du repas en famille. Quelle est sa valeur et quelle est son importance? Vous avez suivi un peu plus tôt, nombreuses familles sont obligées de faire du délestage ou mangent par rotation, mais il y en a d'autres qui accordent une valeur importante au repas pris en famille.
Pour moi, les repas familiales, je peux dire que c'est un pacte de fidélité, de fraternité, et d'un amour sincère. Souvent même, j'aime à ce que mes enfants s'habituent avec les aliments de base, que mes ancêtres mangeaient quoi. Donc, c'est ça. Je n'ai jamais voulu à ce que mes enfants s'habituent avec les histoires de boucherie, de takeaway, des histoires trop chimiques, non.
Mais la famille est faite pour être unie, pour vivre ensemble. Et je vous assure, ça fait même plaisir. Quand on mange ensemble, on a même de l'appétit. Plutôt que de manger seul, comme on voit aujourd'hui, il y a certains parents indiens. Ils préfèrent aller manger dans un ganda, dans un malewa, quelques morceaux de kwang avec des têtes de Thompson, un peu de piment, et ils croient qu'il a mangé sans appétit, sans quoi que ce soit, juste pour remplir son estomac. Non, quand on mange en famille, on rigole, on se raconte ce qui s'est passé pendant, mais ça fait énormément plaisir, et c'est ça même l'ambiance de la famille, ça reflète l'unité, l'unicité d'une famille, c'est très bien.
Manger à table, c'est une façon de s'unir, une façon de corriger les enfants qui se comportent un peu mal et bizarrement en dehors de la famille. Et donc, quand on met les repas comme ça, on essaye un peu de vouloir voir les choses à la hauteur et se rappeler aussi comment les ancêtres mangeaient avec nos parents, comment nos ancêtres étaient en train de prodiguer des conseils quand ils étaient à table.
Déjà, c'est très difficile pour moi de manger quand je suis toute seule. La valeur que j'ai reçue, c'est de pouvoir partager facilement.
Réunir sur une base régulière la famille autour d'un repas n'est pas toujours facile, car parfois, les horaires de chacun sont incompatibles. Et pourtant, le repas en famille est l'occasion d'échanger ou encore un moyen pour resserrer les liens familiaux. Mais pourquoi est-il aussi important de manger en famille? Thérèse Cancou, vous avez fait quelques recherches sur Internet à ce sujet.
Oui, Neuilly, nous avons découvert quelques raisons de prendre les repas en famille. Lorsque les familles mangent ensemble régulièrement, il y a plus de chances que les parents et enfants fassent des meilleurs choix alimentaires. Les enfants mangent plus de fruits et légumes et ont moins de chances d'avoir un poids excessif. Les familles sont donc en bonne santé. Des études prouvent que les enfants qui prennent régulièrement leurs repas en famille réussissent mieux à l'école. Ces enfants obtiennent des meilleurs résultats car les repas pris en commun leur offrent davantage d'occasions de s'exprimer et d'échanger des idées, ce qui contribue à développer leurs aptitudes de langage. Les études démontrent que les enfants des familles qui mangent ensemble régulièrement sont moins sujets à la dépression, aux pensées suicidaires, à la consommation des drogues et aux troubles de l'alimentation. En mangeant régulièrement avec leurs enfants, les parents décèlent rapidement ces types de problèmes. Ces enfants ont une plus grande confiance en soi. Les repas en famille développent aussi des bonnes habitudes de vie. Les enfants peuvent aider leurs parents à faire l'épicerie, à cuisiner, à mettre la table et à la nettoyer à la fin du repas. En suivant l'exemple de leurs parents, les enfants découvrent aussi l'importance de manger sainement et la participation des enfants contribue à promouvoir leur autonomie et leur sens des responsabilités à la maison et dans la société. Les repas en famille sont aussi une belle occasion de s'exprimer, d'échanger des idées et d'en connaître davantage sur les activités de chacun. En prenant cette bonne habitude, on fournit à chacun la chance de jouer un rôle positif dans la vie de famille et renforcer ainsi la solidarité familiale. Selon une étude de Jeannette Cade sur l'importance du repas en famille, même s'il ne s'agit que d'un repas pris en famille par semaine, quand les enfants mangent avec leurs parents ou leurs frères et sœurs plus âgés, ils apprennent à manger. Observer la manière dont les plus vieux mangent et les différents aliments qu'ils ingèrent est essentiel à la création de leurs propres habitudes et préférences alimentaires.
Merci Thérèse. Et comme vous l'avez dit, le repas en famille développe des bonnes habitudes de vie. Dans la famille d'Ornelas, que vous allez suivre tout à l'heure, le repas en famille est une règle. Âgée de 21 ans, Ornelas se souvient de ce qu'elle appelle un moment spécial. À tout point de vue.
Je suis née ici, j'ai grandi ici et chez nous, ça se passe toujours comme ça. Tous les jours, on mange tous les soirs ensemble.
Pourquoi vous mangez tous ensemble?
Je pense qu'il y a beaucoup d'amour à partager. Je pense qu'il y a certains liens qui se créent quand on est souvent ensemble. Je pense que c'est une culture que surtout maman s'est battue à asseoir. On doit tous
que
être
manges,
là.
Que tu ne manges pas?
Je dois manger.
Tu dois manger. Oui. Ça, c'est maman qui le dit.
À moins que tu aies une bonne raison, mais tu dois manger.
Alors, qu'est-ce que maman dit quand vous mangez ensemble?
Elle répète souvent que le fait de partager la nourriture ensemble, ça nous lie un peu. C'est comme si on est en train de renforcer les liens.
Vous-même, vous partagez des petites expériences que vous avez rencontrées la journée?
Oui, on rit, oui, toujours. On se fait des blagues, toujours. Je pense que ce moment-là, le soir, c'est le temps où on partage beaucoup de choses en famille, le soir.
Mademoiselle Ornelas, quand vous êtes à table, est-ce que tous les sujets se partagent à table ou bien il y a des sujets spécifiques?
Pas tous les sujets. Il y a, déjà, nous sommes une famille africaine. Il y a certains sujets qui sont tabous. Mais je pense que la plupart des sujets se partagent.
Alors, vous mangez avec la télé, avec le téléphone, avec les ordinateurs à côté, ou bien tout cela reste silencieux et on n'écoute que
on mange,
les voix,
on
les
mange
plats.
On mange avec la télé. La télé, oui. Mais le reste, on gronde un peu quand...
Voilà.
Le reste, gronde, non.
Elle tient beaucoup sur ça. Quand on est à table,
faut
les téléphones sont à côté.
À côté, oui.
Voilà. Donc, là, pas de texto.
Pas de texto, sinon on gronde.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Capi. L'identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Retrouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30, le mardi à 14h15.
Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, je rappelle que vous êtes sur Radio Capi et vous suivez notre magazine Parité et Famille qui a pour thème aujourd'hui l'importance du repas en famille. Je vous l'ai présenté tout à l'heure, professeur Alexandre Nawej et, je le rappelle, historien à l'université de Lubumbashi. Professeur, nous savons quand même qu'en RDC, il y a eu une époque où on pouvait bien partager ce repas-là en famille. C'était par exemple quelle époque?
Je dirais que pendant toute la période coloniale, et même au début de la période coloniale, les conditions de vie étaient encore meilleures et on savait partager le repas en famille. Okay. Et d'ailleurs, si vous remarquez, même la qualité de la boule de Boukari a évolué. Dans l'ancien temps, c'était la pâte de Boukari. Et en gros, donc,
toute une boule déposée dans un bol.
Dans un bol. Et tout le monde mettait sa main dans cette moule-là.
Voilà.
Mais aujourd'hui, on a initié un système où on coupe la boule en plusieurs morceaux.
Il y a les mesurettes.
Ou les mesurettes. Ou bien que je peux appeler les boulettes de Boukari.
Voilà.
Qui fait que chacun viendra à son tour pour prendre deux ou trois. Ça signifie même que l'union de la famille a disparu. Quand c'était une grosse boule, et chacun mettait sa main, il y avait de l'ambiance à la table, et c'était vraiment la famille.
Alors, à cette période coloniale-là, où vous dites on partageait cette boule, qu'on appelle d'ailleurs boule nationale, au niveau de Lubumbashi, ça avait quelle valeur?
Ça avait la valeur de l'union familiale, de la fraternité, de la communauté, bref, de l'unité ou de l'union familiale.
Vous nous disiez tout à l'heure en aparté que le repas en famille offre aux parents l'occasion rêvée de veiller au bien-être affectif de leurs enfants. La table est donc un endroit tout trouvé pour avoir régulièrement accès auprès de ses parents et obtenir ainsi leur attention en toute décontraction. Dites-nous, professeur, comment vous expliquez cette situation?
Si vous voyez bien, aujourd'hui, il y a le phénomène enfant de la rue que nous décrions tous.
Oui.
Mais si vous vous suivez de près, chaque enfant de la rue à ses parents, d'ailleurs ses parents même sur place,
oui.
papa, maman, et grands-parents et tout. Mais comme l'éducation, puisque l'unité familiale favorisait aussi l'éducation de l'enfant, maintenant l'enfant reçoit plus l'éducation du fils, l'éducation des amis, c'est-à-dire que s'il a des amis qui dès le bas âge ont commencé à fumer, l'enfant aussi va commencer à fumer, si dès le bas âge ses amis prenaient des chanvres, ou bien buvait de l'alcool, communément appelé aujourd'hui zododo. Donc si déjà à 5, 6 ans, 10 ans, il prend déjà des zododo, qui fait que même en famille, son intégration est très difficile.
Mmh.
Et cet enfant-là a plus de chances d'aller sur la rue que de rentrer en famille. Donc actuellement, l'unité de la famille est très exposée, bon, qui fait que là où l'unité est encore préservée, c'est déjà bien. Il y a des familles où l'éducation est vraiment bonne.
Vraiment. Ouais. Alors, il y a des familles où, même quand on était à table, on savait voir que maman approchait par exemple à telle, non, tu vois, tu es grand, la nourriture, elle reste un peu, donc il faut laisser aux plus petits. Ou bien toi, tu es mal assis à la table, regarde comment est-ce qu'on s'assoit.
Ou bien toi, tu manges rapidement.
Voilà, tu manges rapidement. Alors, pourquoi cette culture-là? Pourquoi ces habitudes-là sont en voie de disparition aujourd'hui?
Actuellement, il y a beaucoup de facteurs qui ne favorisent plus l'unité familiale autour des repas. Il y a plusieurs facteurs. Entre autres, la précarité de la vie. Il y a le temps même, le temps matériel pour être ensemble. Il y a le travail de papa ou de maman. Il y a les études des enfants, études au secondaire, études à l'université. Et il y a parfois même la nourriture manque.
Le téléphone aussi, téléphone, on mange, on est tout le temps en train de WhatsApper.
En tout cas, je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions pour unir la famille. Trop de distractions.
Quels sont alors les avantages d'un repas familial?
Très bien, c'est une très bonne question. Les avantages d'un repas familial, c'est de favoriser l'unité familiale. Donc, quand on partage le repas ensemble, surtout maman, maman a toujours un mot d'éducation à placer pour les enfants. On mange, on prend telle position à table, on ne doit pas parler quand on mange, on doit se tenir de bonne manière. Quand il reste un peu là, on laisse pour les petits, on doit se laver les mains après les aînés, après les parents. Oui. Or, si cette éducation-là n'y est pas, bon, le petit enfant qui termine, il va directement se laver les mains, alors que les grandes personnes ne sont pas encore lavées les mains.
Il quitte d'abord la table avant les grandes personnes.
Donc, ce qui fait que le repas ensemble permettait d'unir la famille et permettait de prodiguer des conseils pour l'avenir de la famille. Puisque les petits là vont grandir, ils vont construire aussi leur famille. À partir de l'éducation reçue en famille, ils prodigueront aussi les mêmes conseils à leur famille,
voilà.
qui explique que dans l'ancien temps, l'éducation était vraiment bonne. C'était difficile de dire non, un enfant de la rue, un enfant mal éduqué, un enfant mal habillé, non, c'était difficile. Puisque toute la société contribuait à l'éducation des enfants. Maintenant, la société s'est vraiment dessaisie de l'éducation familiale. Qui fait que, même quand je vois une fille qui passe sur la rue mal habillée, moi, ça ne me préoccupe plus. Alors que dans l'ancien temps, c'était un problème de toute la société. Un enfant mal habillé, on rebrouche l'enfant, on va même dire à ses parents, voilà, votre fille là-bas, je l'ai vue sur la rue,
et très mal habillé. Je l'ai vu avec un garçon et sous un arbre et tout ça, tout ça.
Je vous garde encore, professeur. Voyageons un peu dans la capitale du pays pour retrouver Nicole Koudiangela, qui s'est entretenue avec trois formateurs du service central de l'éducation à la vie. Ils nous font aussi leur lecture sur l'importance du repas en famille. Écoutons tour à tour Madame Albertine Itella, Paul Mboula et Alexandre.
Le repas, pour moi, en tout cas sur l'angle éducatif, c'est un moment de fête, c'est un moment de joie. C'est un moment qui permet à ce qu'on se regarde face à face, qu'on voit un peu qui est qui, comment il est, comment il se comporte, quels sont les gestes, les petits gestes qu'il pose. Je suis une mère, je suis une femme mariée, je suis une femme, je vais à la cuisine, je prépare, j'arrange la table, et j'appelle tout le monde pour venir manger. Alors, quelle est l'importance? Je me dis d'abord, pourquoi est-ce que je préparais? J'ai préparé parce que je vais être ensemble avec le mien. Je vais être ensemble avec les enfants. Je vais être ensemble avec mon mari. Je veux déceler certains gestes. Hein, certains gestes, parfois qui sont bons ou parfois qui sont mauvais. Je veux voir qui a souci de l'autre quand on mange. Qui s'occupe de l'autre quand on mange. Qui mange plus vite que l'autre. Qui mange lentement. Qui est rassasié? Qui peut être rassasié? Qui est content de ce qu'on a présenté sur la table? Qui n'est pas content? Donc, manger ensemble, c'est vraiment un moment important.
Monsieur Alexandre Malumba.
Manger ensemble, c'est un grand moment pour nous Africains, pour nous Congolais. Partager un repas, c'est partager toutes les joies qu'on a retrouvées d'être ensemble. Et c'est une fête, un moment privilégié pour que les gens puissent exprimer leur état d'âme et en même temps leur peine. Et je préfère, moi, que l'on mange ensemble tout en étant ensemble. Parce qu'on peut manger ensemble sans être ensemble, chacun avec son assiette.
Monsieur Paul Mboula, il y a des gens qui n'ont pas assez de temps pour manger seul, il y a des gens qui n'ont pas appris à manger seul. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, malgré les difficultés, pour manger ensemble?
Oui, au départ, comme les amis l'ont dit, c'est un problème d'organisation. Et comme ce sont les parents qui doivent être les initiateurs, parce que c'est eux qui ont la politique de la maison, ils doivent créer ce moment de fête, ce moment d'apprentissage, ce moment de formation et ce moment de transmission des valeurs culturelles. Même ceux qui sont de culture judaïque, ils savent que même l'étranger qui passe se retrouve quand on l'invite à un repas. À plus forte raison, quand on est ensemble en famille, on a beaucoup d'intérêt à manger ensemble. Donc les parents doivent commencer par trouver un moment où tout le monde peut se retrouver ensemble. Ils doivent également créer cet environnement favorable au partage. Parce que, comme disait M. Malumba tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement de manger ensemble, mais c'est de partager non seulement le repas, mais aussi de partager l'émotion, les attitudes, les joies, les valeurs. Donc, organiser l'environnement, choisir le moment, mais aussi être détendu. Parce que parmi les raisons qui font que les gens ne mangent pas ensemble, il y a certains complexes. Des parents qui ont grandi dans une famille où on a mangé seul, où on mangeait dans les restaurants, où on mangeait isolé. Bon, ils souffrent de créer cette ambiance et ne comprennent pas que les gens puissent manger à main nue, hein, parce qu'en famille, on a grandi dans des conditions où on a mangé dans les couverts. Alors, il faudra une certaine préparation aussi, parce que c'est pas toujours évident que l'on puisse sacrifier un moment de travail, un moment d'étude, un moment de partage avec des amis pour courir à la maison, partager un repas qu'on n'aime pas trop. Il faut que chacun sache pourquoi on se retrouve. On se retrouve au repas ensemble. Si on ne peut pas le faire tous les jours, mais au moins une fois la semaine, une fois le mois, et s'attendre, parce que parfois c'est difficile d'attendre quelqu'un qui va rentrer à 16h ou d'attendre un repas qu'on prendrait à midi au lieu de de le prendre à 16 heures quand tout le monde est disponible.
À l'époque, les enfants mangeaient tous ensemble dans une même assiette. Alors, que représentait pour vous peut-être ce repas, hein, ensemble dans une même assiette?
Ce repas est un moment de cohésion, est une force pour la famille. Comme on disait, une famille nombreuse vous apprend déjà avec des repas communautaires beaucoup de valeurs qui vous permettent de vous solidariser avec des personnes qui ne sont même pas de votre famille. Dans Kinshasa ancien, il était inconcevable que quelqu'un arrive chez vous, que vous lui tendiez un journal, parce qu'on disait toujours, ça c'est le blanc, la culture du blanc de donner le journal aux visiteurs. L'Africain lui disait, s'il y en a pour un, il y en a aussi pour deux. Alors ça, on peut extrapoler ça au niveau national. Quand il y a un peu de quoi pour un, on apprend déjà en famille avec ce repas à partager pour plusieurs.
Oui, madame, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je voulais juste ajouter un autre aspect. On trempe la main ensemble, on mange ensemble, on a un même repas. C'est aussi pour montrer qu'il y a égalité. Donc, nous mangeons tous la même chose. Donc, je mange ce que tu manges. Je vais bénéficier de ce que tu bénéficies. Parce que quand je mange pour nous, toi tu manges Thompson, on sent déjà le déséquilibre. On sent la différence. Mais lorsque nous trempons tous la main dans un même repas, en tout cas, il y a cette notion d'égalité, d'équilibre, tout ça.
Même la notion de chef est bien comprise avec un repas collectif. Regardez un père qui peut partager le même morceau avec son fils. Ce n'est pas la même chose que celui qui vient manger seul, à qui on donne le gros morceau comme chef. Alors, avec ça, l'enfant grandit avec l'idée, une mauvaise idée de chef. Il croit que le chef, c'est celui qui doit prendre le gros morceau. Alors que, normalement, nous voulons une société où chacun peut se retrouver, parce que déjà en famille, on se disait, papa qui ramenait tout, maman qui ramenait tout, n'était pas assez égoïste pour prendre le gros morceau. Pourquoi est-ce que moi, en tant que responsable, en tant que dirigeant, quelque part, je dois m'usurper la part du lion? C'est une série de valeurs qu'on apprend à travers le repas d'ensemble.
Radio Okapi.
Revenons à vous, professeur Alexandre. Que faire pour ceux dont le rythme de la vie empêche de se retrouver autour d'une même table pour un repas?
Non, il ne faut pas rendre le partage très élastique. Puisque ce que vous venez de dire, maman, on constate très souvent que actuellement, c'est surtout le jour de Noël, de Nouvel An, de Pâques, où on peut partager ensemble. Mais le reste de l'année, on n'est pas ensemble.
Surtout les vacances qui commencent, là c'est walanji,
comme on dit. Ouais, comme on dit en tchoké, walanji.
Voilà.
Donc, ça dit qu'il faut donner aux enfants, à la famille, la culture de partage. La culture de partage.
Et le plus tôt serait le mieux.
Oui, le plus tôt serait le mieux. Moi, j'ai proposé, si c'est difficile qu'on partage chaque jour, évidemment, le conditionnement de la ville ne permet plus qu'on partage chaque jour. Mais si on peut partager, ne fût-ce que deux jours par semaine, en week-end, comme je l'ai dit, samedi, dimanche, les enfants vont grandir avec cette culture-là de partage. Donc, un enseignement est nécessaire en famille dans la prise des repas. C'est vraiment nécessaire. C'est pourquoi j'apprécie même le thème que vous avez développé aujourd'hui. Et en fait, c'est comment être ensemble à table pour favoriser l'unité nationale et comment tenir les couverts quand on est à table. Donc, c'est toute une éducation.
Voilà.
Autour de la table, il y a toute une éducation pour la vie future.
Professeur, je vous remercie.
Merci, maman.
Parité et famille, c'est fini. Nous parlions de l'importance du repas en famille. Merci à Nicole Koudengela qui a participé à la production de ce magazine supervisé par Thérèse Cancourt. Pierre Diassinois a assuré la prise de son et moi, je suis Nelly Fallon Kabena. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro.